en direct de Pau, le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Philippe David.
Et retour de cette tête il y a, on revient dans le passé à la même date que la semaine qui vient de se terminer et on revient aujourd'hui 150 ans en arrière pour une date qui a profondément marqué l'histoire de France, le 4 septembre 1870, jour de la proclamation de la Troisième République en plein chaos militaire dans la guerre face aux États allemands. Nous sommes en compagnie de Pierre Cornu-Gentille, avocat et auteur du livre « Le 4 septembre 1870 » publié chez Perrin. Bonjour Pierre Cornu-Gentille.
Bonjour.
Le 4 septembre 1870 naît la Troisième République dans une succession de chaos. Depuis le 19 juillet et le début de la guerre, la France va malheureusement de défaite en défaite, de Reichshofen à Gravelotte, en concluant par Sedan.
Oui, en effet. Et la nouvelle de la défaite de Sedan, qui est une catastrophe parce que l'empereur est fait prisonnier et les deux principales armées françaises sont anéanties. L'une parce qu'elle est prisonnière également avec l'empereur, et l'autre, c'est celle qui est à Metz, enfermée, séquestrée, encerclée depuis déjà plusieurs semaines. Donc il n'y a pratiquement plus d'armée française et le territoire est envahi et Paris est menacé de l'encerclement par les troupes prussiennes et on prévoit que ça va se faire dans les 15 jours et c'est effectivement ce qui s'est fait. Voilà la nouvelle qui arrive à Paris le 3 septembre au soir.
Alors justement, Napoléon III est prisonnier depuis le 2 septembre, puisqu'il s'est rendu à Sedan, et le 3, il est emmené vers l'Allemagne en passant par la Belgique. Est-ce que c'est le fait, la capture de Napoléon III, qui déclenche le 4 septembre ?
Non, pas tellement, en réalité. C'est surtout la prise de conscience par les Parisiens qu'on leur a laissé croire depuis quelques semaines, d'abord depuis le 15 juillet, on leur a laissé croire que l'armée française était plus puissante que les armées allemandes, et ensuite, on leur a fait croire que les premières défaites que vous évoquiez tout à l'heure, finalement, n'étaient que des péripéties, mais que le jour où Macmahon arriverait autour de Metz, il libérerait l'armée de Mayenne, et puis la France l'emporterait, comme on le prévoit depuis le début. Et donc, ce jour-là, le 3 septembre au soir, les Parisiens, qui sont majoritairement républicains, ils ne sont pas favorables à l'Empire, ils sont majoritairement républicains, à la différence du reste du pays, les grandes villes sont républicaines, et les Parisiens découvrent qu'on leur a menti, et que en réalité, ils sont menacés d'encerclement et d'envahissement par les armées allemandes. Donc ils sont stupéfaits d'abord et puis révoltés immédiatement. Les manifestations commencent dès le 3 septembre au soir.
Et justement, le 4 septembre, la foule envahit le palais Bourbon. C'est une révolution, mais une révolution sans verser une goutte de sang, contrairement en 1789, 1830 ou 1848 ?
Absolument. C'est paradoxalement la seule révolution républicaine qui a réussi, puisque, comme vous le savez, la Première République a échoué parce qu'elle a effectivement sombré dans la guerre civile et la terreur en 1793. Puis, son échec a été sanctionné par le coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. La Deuxième République de 1848 a également sombré dans la guerre civile et a été elle aussi sanctionnée en 1851 par le coup d'État de Napoléon III. Et à chaque fois, il y a eu effectivement de nombreux morts en 92, 93, bien sûr, dans la Révolution, et également en 1848, en juin 1848. Le 4 septembre, pour la première fois, la Révolution a réussi, puisque la République a été installée, définitivement, puisque nous sommes toujours de ce régime-là, même si c'est la troisième, la quatrième, puis la cinquième, mais voilà, c'est la Révolution qui a réussi, et il n'y a pas eu une goutte de sang versé.
Alors justement, le gouverneur de Paris, c'est Louis-Jules Trochu, il reste passif. On aurait pu imaginer faire tirer dans la foule. Pourquoi reste-t-il passif ?
D'abord, lui, probablement qu'il serait resté passif de toute façon, même si on lui avait donné l'ordre de tirer, parce qu'il était en très mauvais terme avec le régime qu'il avait donné. C'est Napoléon III qui l'avait nommé, mais contre la volonté de la régente, l'impératrice et du gouvernement ultra qui l'entourait. Donc lui, il n'aurait sans doute pas tiré sur la foule, c'est-à-dire pourquoi il s'est rallié, il a pris la tête du gouvernement républicain. Mais en réalité, de toute façon, effectivement, l'impératrice avait décidé elle a donné instruction de ne pas tirer, alors que ses partisans étaient prêts, sans doute, à tirer dans le peuple. Elle a refusé qu'on le fasse parce que, et curieusement, elle a pris aucune décision. Elle a également refusé de transférer les pouvoirs au corps législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée, comme les libéraux de son camp le lui recommandaient. Elle ne voulait ni renoncer, ne serait-ce que momentanément, au pouvoir, ni prendre des dispositions qui pourraient se retourner, elle en avait conscience, contre le régime, car si jamais le sang coulait, c'en était fini définitivement de la dynastie, qu'elle espérait toujours sauver.
Alors justement, des députés, notamment Gambetta, proclament la République depuis l'hôtel de ville, et il y a un gouvernement de la défense nationale qui est nommé, dont Trochu prend la tête. Quand on regarde ce gouvernement, dedans, il y a des gens qui vont jouer un rôle clé dans la troisième. Gambetta, Jules Ferry ou encore Adolphe Crémieux.
Absolument. Alors Adolphe Crémieux n'a pas joué un rôle par la suite. Hein. Il a joué un rôle...
C'est lui qui a fait le statut des Juifs d'Algérie à qui il a donné la nationalité française.
Oui, mais pas par la suite. C'est-à-dire qu'il a fait tout de suite. Il a fait
au ministre
du gouvernement de la Défense nationale. C'était effectivement une décision très importante qu'il a prise. Mais ensuite, sa carrière était terminée. Il a terminé en beauté, si je puis dire. Et alors, lui, c'était un vieux de la vieille, en quelque sorte. Adolphe Crémieux, c'est un vieux républicain qui avait déjà connu 48. Alors que c'est la révélation au moment de à la fin de l'Empire de futures gloires de la République, qui sont effectivement des hommes d'État, qui se révèlent aux hommes d'État, qui sont encore jeunes. Gambetta a 32 ans, le 4 septembre, et c'est lui qui, de fait, va devenir le chef du gouvernement, parce qu'il sera ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Guerre, il cumulera les deux postes. C'est lui qui va mener la lutte désespérée, et finalement, il échouera des luttes très courageuses contre les armées allemandes. Et puis Jules Ferry, qui est un peu plus âgé, il a 37 ans, lui, mais qui se révélera effectivement un homme d'État de très grande envergure.
Alors justement, Pierre Cornu-Gentil, vous l'avez rappelé, la situation va empirer, les humiliations vont succéder aux humiliations avec le 18 janvier Bismarck, qui proclame dans la Galerie des Glaces de Versailles l'Empire allemand, et le 10 mai, le traité de Francfort, qui ampute la France de l'Alsace-Moselle. Est-ce que finalement, ce n'est pas le revanchisme face à l'Allemagne qui va souder les Français autour de la République ?
Si, sans aucun doute. C'est-à-dire que dans cette situation que vous décriviez tout à l'heure et qui est d'un effondrement général et stupéfiant, les seuls qui ont pris leur responsabilité, c'est les républicains modérés. C'est Gambetta, Jules Ferry et Jules Favre. Ils ont fait un peu malgré eux parce que ils ont compris que s'ils ne prenaient pas le pouvoir, ils avaient toujours prévu de le prendre porté par le suffrage universel, et là ils étaient très mal à l'aise à l'idée de faire ce qui ressemblait quand même à un coup d'État. Mais ils l'ont fait pour éviter que les futurs communards, en fait les révolutionnaires républicains, ne prennent le pouvoir à Paris, car c'était effectivement ce qui se préparait. Et donc il est apparu aux yeux des Français qui n'étaient pas républicains, il n'était pas encore en 1871, il est apparu que les seuls qui avaient sauvé l'honneur, en quelque sorte, c'était les républicains modérés, et ça a sûrement joué par la suite.
Dernière question. Pour une réponse rapide, ironie de l'histoire, la Troisième République est née à Sedan dans une défaite face à l'Allemagne. Elle mourra 70 ans plus tard à Sedan dans une nouvelle défaite face à l'Allemagne.
Ben oui, effectivement, c'est, comme vous dites, ironie de l'histoire.
Et une ironie tragique, malheureusement. Merci beaucoup, Pierre Cornu-Gentil, avocat et auteur. Alors, c'est vraiment un excellent livre pour ceux qui veulent se rappeler cette période essentielle de notre histoire. Le 4 septembre 1870, c'est publié chez Perrin et c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup à vous, Pierre Cornu-Gentil, d'avoir participé au Grand Matin Week-end de Sud Radio dans la chronique C'était il y a. Dans la prochaine demi-heure, le livre du dimanche, Christian Laborde, qui va nous parler de Dédé de Dax, André Darrigade. C'est logique, un jour d'étape du Tour de France. Je rappelle que nous sommes à Pau depuis le siège des Gilles Bernes, Pays Basque. Ensuite, on aura la sélection musique de Bruno Dubois et ça fait toujours du bien puisque vous le savez, sans musique, la vie serait une erreur, comme disait Nietzsche. Et enfin, on va décrypter le match Suède-France d'hier remporté grâce à un but magnifique de Kylian Mbappé. Restez bien avec nous sur Sud Radio.